De retour à l'émission Au gré du temps avec François Millette. François, d'où vous vient cette belle attitude à jouer du piano? Parce que je parle d'attitude parce que vous jouez le piano comme si c'était vraiment un geste solennel. On vous sent en fusion avec votre instrument lorsque vous vous mettez. Mais c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque...
Ah oui.
Vous jouez du piano avec rigueur et avec un grand respect à l'égard de l'instrument.
Oui, c'est difficile de répondre à cette question-là. J'aurais certainement aimé être musicien dès que j'étais très jeune. J'avais un oncle qui faisait du piano chez ma grand-mère, puis j'étais le seul de ses neveux qui laissait approcher de son piano. Je ne sais pas pourquoi. Probablement qu'il voyait que je faisais pas seulement donner des coups de poing dessus. mais je veux dire...
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque religieux quand vous vous mettez derrière le clavier. Il y a comme un cérémonial important. On sent que ce n'est pas un geste anodin.
Non, non. Non, c'est une chose qui me fascine, la musique, absolument. Je me souviens d'avoir éprouvé des émotions extrêmement bizarres. Par exemple, la première fois que j'ai entendu le troisième mouvement de la sonate pathétique de Beethoven, j'ai été convaincu que j'avais déjà entendu ça. Hein? J'avais 16 ans, 17 ans peut-être. Je ne peux pas vous dire que je l'avais jamais entendu. C'est possible que je l'ai déjà entendu. Peut-être que mon oncle la jouait chez ma grand-mère puis qu'il nous a jamais joué ses pièces. Mais peut-être que je suis rentré chez ma grand-mère une fois puis qu'il était en train de la jouer puis j'ai entendu juste un extrait puis pouf, ça m'a frappé. Peut-être que ça rentre ou que ça rentre pas. Ça, c'est comme des enfants d'une même famille qui racontent des souvenirs complètement différents et qui vont dire... Te souviens-tu que papa disait ci ou que papa faisait ça?
On est dans un univers perceptuel, la perception des uns des autres.
Mais dans un univers de réceptivité fluctuante dans le temps. On va dire des choses, si à un moment, on les dit au moment où il n'y a personne qui écoute, on parle dans le vide. Mais on peut dire exactement la même chose.
Mais ce n'est pas moment, reçu de la même façon.
À un moment où il y a des canaux ouverts quelque part, hein, on pourrait ici fermer nos micros, parler tout seul, personne n'entend. Peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre ce qu'on dit ce soir et qui vont dire « Mon Dieu Seigneur, pour qu'ils se prennent » ou « qu'ils sont ici » ou « ça, ça » ou « ça n'a pas d'allure » ou « Mon Dieu, c'est intéressant »
Mais la magie de la radio, c'est ça, c'est qu'on parle individuellement à plusieurs personnes.
Et ça, je dois vous dire que c'est une chose qui m'impressionne énormément. C'est une chose qui m'impressionne énormément. Moi, j'ai fait un rêve terrible avant de venir faire votre émission. Je comptais ça à M.
Vous pouvez nous le raconter.
Oui, c'était absolument extraordinaire. J'étais dans les coulisses de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et le violoncelliste en chef venait me dire « Monsieur Millette, c'est à vous, vous allez diriger, il faut y aller, ça va commencer. » Puis je devais diriger la 9e symphonie de Beethoven, juste ça. Puis il me dit « Faites-vous-en pas, on va vous aider. » Puis là, il me tendait une main énorme. Moi, j'avais une toute petite main. Puis il me dit « Allez donc choisir votre baguette dans le tiroir là-bas. » Puis là, j'ouvrais un tiroir, mais tout ce qu'il y avait dans le tiroir, c'était des bouts de branches, des clous, des petits morceaux. Il n'y avait pas de baguette de chef là-dedans du tout. Et j'avais l'impression que j'étais un parfait...
Imposteur.
Imposteur. Hein? Oui, un imposteur.
Le syndrome de l'imposteur.
Le syndrome de l'imposteur. Mais je suis absolument convaincu que les plus grands experts... Moi, j'ai connu les plus grands experts mondiaux de la dermatopathologie, qui est mon domaine de prédilection.
Oui.
Ce type-là était reconnu dans le monde entier. Et j'avais tombé de ma chaise quand il m'avait raconté que même encore à son âge, il avait 65 ans passé, puis il était réputé dans le monde encore, il rêvait régulièrement qu'il coulait des examens. Qu'il échouait ses examens. Mais j'étais fou de rire de me dire, mais mon Dieu, ça n'a strictement aucun sens que vous êtes la dernière personne au monde qu'on imaginerait couler un examen. Mais ça n'a rien à voir avec le couler ou de ne pas le couler. Ça a à voir avec Carole, mon épouse, dit une chose que je trouve extraordinaire. Puis plus on réfléchit à ça, plus c'est difficile de trouver la ligne d'équilibre. Elle dit toujours, si tu vas n'importe où, si tu y vas sans arrogance... Et sans complexe, tu vas toujours avoir ta place. Mais je vous garantis que plus on réfléchit à cette maxime-là, plus on se rend compte que la ligne est mince entre l'arrogance et le complexe. Et que garder une ligne d'équilibre là-dessus, j'ai assez d'assurance pour être ce que devenir ce que je suis, me permettre d'être ce que je suis, assez d'assurance, sans arrogance, puis pas de complexe pour me bloquer moi-même. ni complexe d'infériorité, au fond, ni complexe de supériorité. Ça a l'air bien, bien évident, là, mais je vous garantis que plus on y pense, plus c'est difficile, plus c'est inquiétant. Pour revenir à l'inquiétude.
Alors, je vais vous demander de vous placer sans arrogance derrière le piano pour nous interpréter, et ça, c'est étonnant aussi, un philosophe qui, un jour, a décidé de composer cet oratorio, cet extrait.
Oui, et pas n'importe quel philosophe, et pas n'importe quel oratorio.
Alors, quelle est-elle, cette pièce?
Introduction à un oratorio de Noël, et c'est composé par Friedrich Nietzsche.
Le pianiste que nous venons d'entendre, c'est François Millette. Bravo encore une fois, François.
Merci.
C'est quand même étonnant d'entendre cette pièce. C'est presque une... J'allais dire, le mot est peut-être péjoratif. C'est peut-être pas de bon mot. J'allais dire une bizarrerie, mais quand même étonnant que Nietzsche ait pu composer une
telle
pièce.
C'est pas si bizarre, à mon avis.
C'est
pas si bizarre. Tout le monde sait que Nietzsche a dit « Gott ist tot », « Dieu est mort hein? ». Mm-hmm. Ce que les gens savent moins, je pense, par exemple, c'est que c'était pas un cri de victoire. Pas du tout. Et dans la suite ou des textes où il parle de ça, il dit une chose qui est très, très importante et qu'on devrait réfléchir beaucoup aujourd'hui, encore. Si l'homme ne réalise pas à quel point c'est une perte, à quel point c'est un deuil, il y aura un prix très lourd à payer. Ça, c'est assez bouleversant quand on pense au contexte, dans notre contexte actuel. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques là-dedans, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un politicien, puis je ne veux pas prêcher quoi que ce soit.
Vous êtes avant tout un humain.
Mais il reste que ce qui m'a frappé quand j'ai découvert cette pièce-là,
oui.
D'abord, je savais que Nietzsche avait été très proche de Wagner, par exemple, qu'ils avaient été très amis, et après, ils sont devenus des ennemis mortels. Puis, en tout cas, c'était assez complexe, leur relation, assez édipien. Mais j'étais surpris de voir qu'il avait écrit, celui qui a dit « Dieu est mort », écrit une introduction à un oratorio de Noël. Or, Noël, c'est l'antithèse de la mort de Dieu. Hein? Et si vous, quand on écoute cette pièce-là, à mon avis, on éprouve de la nostalgie. Comme s'il y avait une nostalgie à avoir, comme s'il y avait un deuil à vivre. Il y a quelque chose de... C'est pas vraiment triste, peut-être. Ça dépend. C'est sûr qu'on peut pas discuter des sentiments, comment on éprouve. Moi, ce que j'éprouve quand je joue ou quand j'écoute cette pièce-là, c'est la nostalgie. Hein? Comment je peux vivre en ayant perdu ce que j'ai perdu? Comment continuer de vivre? C'est ça, la nostalgie.
Alors, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui fait en sorte que François Millette, lorsqu'il se réveille chaque matin, a encore ce désir de vivre, comme bien des humains, et heureusement que nous avons ce désir de vivre? Quelle est votre flamme?
la volonté d'aller plus loin. Je dirais simplement aller plus loin. Plus loin en moi-même, plus loin avec les autres, plus loin dans tout ce que je suis capable de faire tant que je pourrais m'avancer. Et comme je vous dis, jusqu'à la fin, en espérant de ne pas trop décevoir, de ne pas trop me décevoir, parce que ça m'arrive de me décevoir.
Comme ça arrive à plein de monde aussi.
Sûrement.
Vous nous avez fait découvrir cette pièce quand même. C'est une curiosité à tout le moins.
Absolument.
Une curiosité Absolument. De Nietzsche. Je vais vous en faire découvrir une autre, celle de Mikhaïl Issoufovitch Nassireff, un compositeur russe né en 1924 à Leningrad, mort en 1981. En 1943, écoutez bien cette histoire, François, je suis certain que ça va vous fasciner. Puis d'ailleurs, vous constatez, vous qui êtes à l'écoute, qu'il y a beaucoup de musique russe.
Seulement la musique russe, mais j'aime...
Mais vous aimez beaucoup, François.
Oui, la musique russe.
Vous
oui.
vous êtes intéressé aussi beaucoup à l'histoire.
L'histoire russe, oui.
À l'histoire russe, à la littérature.
J'aimerais vous dire pourquoi.
Oui.
Ce qui est absolument extraordinaire de l'histoire russe, c'est qu'elle est d'une intensité et d'une, comment dire, d'une intensité et d'un contraste extrême. Si les Russes font du capitalisme, ils deviennent mafieux. S'ils font du marxisme, ils deviennent staliniens. S'ils font de la religion, ils deviennent orthodoxes. Alors, il y a une intensité qui résulte probablement de l'immensité de leur pays, ce qui fait que dans les romans de Dostoïevski, par exemple, on le voit particulièrement, tous ces personnages sont des excessifs, des fous. Okay? Mais la caricature, quasi-caricature, que cette histoire-là décrit, a quelque chose d'universel.
Oui.
Ce qui fait qu'on peut retrouver à des échelles beaucoup plus subtiles, à des échelles beaucoup plus discrètes, les mêmes comportements.
Oui.
On se sent proche...
En fait, j'allais dire que dans ces romans, on
particulièrement... Tout est simplifié.
Oui.
Parce qu'il est excessif.
Mais on le regarde comme si on regardait des personnages avec une loupe. Tout
oui,
est grossi.
Tout est grossi.
Tout est grossi.
Tout est grossi, mais on reconnaît en soi-même, si on est attentif, tous ces caractères-là.
Alors, laissez-moi vous dire un mot sur le compositeur Nassireff. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté par le commissariat du peuple aux affaires intérieures, la police politique de l'URSS, qui était chargée de combattre le crime et de maintenir l'ordre public, et surtout connu pour les activités du goulag. En fait, c'était l'ancêtre du KGB. Donc, arrêté, condamné à mort, on reproche au jeune musicien de 19 ans d'écrire un journal intime, donc pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État. La condamnation à mort sera commuée en 10 ans de goulag dans le camp de Vorkouta, à 2500 km au nord-est de Moscou. Au terme de sa peine, on l'exile dans la ville de Syktyvkar, c'est situé dans le nord, où il deviendra chef d'orchestre du théâtre d'État. En 1967, Nassireff devient membre de l'Union des compositeurs soviétiques grâce aux recommandations de nul autre que Shostakovich. Son œuvre est imposante, 4 symphonies, 3 concertos, 4 quatuors à cordes, des ballets, une centaine de pièces de musique de chambre. Et 7 ans après sa mort, soit en 1988, la Cour suprême de l'URSS, donc avant la disparition de l'Union soviétique, le disculpe des accusations portées contre lui. On reconnaît donc que c'était un blâme non mérité. Alors voici son poème symphonique qui a pour nom Chaska, qu'on peut traduire par « Conte de fées », qui a été composé en 1947 durant ses années de goulag. On écoute ici l'orchestre de Saint-Pétersbourg sous la direction d'Andrei Anikanov. Thank you.
La vie que vous venez de décrire ressemble par beaucoup d'aspects à celle de Dostoïevski lui-même, qui a été lui aussi condamné à mort, comme lui, relégué en déportation, qui a écrit une grande œuvre après être revenu, qui a fini sa vie avec beaucoup de reconnaissance. Et c'est une excellente illustration du fait des excès continuels que ce pays-là connaît. C'est complètement hallucinant. L'intérêt de ça, je trouve, pour nous, c'est surtout, comme je vous dis, de pouvoir observer à l'échelle microscopique après, d'avoir compris à l'échelle... C'est comme quand je regarde une biopsie de peau au microscope et que je vois de quoi le psoriasis a l'air. Quand je vois la peau du psoriasis après, je suis capable de comprendre pourquoi ça ressemble à ce que ça ressemble. Parce que j'ai vu au microscope comment c'était fait. Alors, c'est sûr que les artistes russes, que ce soit les musiciens ou les écrivains, ont toujours eu tendance à faire dans l'excès, mais avec une intelligence quand même absolument remarquable.
On enchaîne avec Mozart. Vous avez choisi l'extrait du Requiem, Lacrimosa.
Oui. Ça, c'est la pièce peut-être... la plus profonde que je connaisse. Puis je vous ferai remarquer, en écoutant cette pièce-là, de porter une attention particulière à l'accord final, la dernière note. Parce que c'est Lacrimosa, naturellement, ça veut dire les larmes, c'est dans le Requiem. Lacrimosa diacilla, jour de larmes, où les justes seront... disparaissent, où on perd... on pleure le deuil, mais encore une fois... Portez attention au dernier accord. Voyez-vous, ce que je veux faire remarquer par l'attention à la dernière note. En passant, c'est le dernier morceau, c'est le dernier morceau du Requiem que Mozart a écrit entièrement. C'est le morceau qu'on voit, c'est celui qui est en train d'écrire dans le fameux film Amadeus, là, celui qu'il est en train d'écrire sur son lit de mort. C'est pas vrai qu'il l'écrivait sur son lit de mort, non. Mais c'est vrai que c'est la dernière pièce qu'il a écrite complètement dans le Requiem. La dernière note est une modulation, c'est un accord de... Tout est en mineur là-dedans, c'est-à-dire la modalité triste en sol mineur. Et le dernier accord, c'est un accord de ré majeur, qui est un accord lumineux. Et ça, c'est, ça je trouve que c'est absolument extraordinaire. Parce que c'est ce qu'on peut dire des grands classiques aussi, comme Mozart en particulier. Hein, on est avant le romantisme, là. Les grandes émotions, les grands sentiments, c'était inconcevable, c'était ridicule. On se serait moqué de Beethoven à cette époque-là, peut-être. Mais l'intensité de la profondeur de l'émotion est là quand même. On dit souvent que Beethoven pleure, Mozart soupire. Mais dans ça, ici, la note finale qui amène une lumière, même à travers les larmes du deuil, c'est une chose assez fantastique. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vu, il y a longtemps, je vous avais fait une image que j'aimerais répéter à propos de la mort. C'est l'image du verre d'eau dans l'océan. Hein? Moi, je trouve que c'est la façon dont je suis capable de me familiariser, de me réconcilier avec l'idée de la mort. À chaque fois que vous allez dans l'océan, prenez un verre d'eau, hein, et donnez-lui un nom. Mettons, appelez-le François. Okay? C'est ce verre d'eau-là, c'est François. Que vous fassiez ce que vous voudrez avec ce verre d'eau-là. Vous pouvez le mettre dans une bouteille et le garder le plus longtemps possible. Vous pouvez le remettre à l'eau instantanément. Vous pouvez le boire, vous pouvez le faire bouillir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que tôt ou tard, si le temps, quand il y aura assez de temps passé, le verre d'eau va retourner à la mer. Puis maintenant, essayez donc de prendre deux fois le même verre d'eau dans l'océan. C'est absolument impossible. Pourtant, l'océan, c'est rien d'autre qu'un paquet de verres d'eau. OK? Mais en nombre infini. En nombre infini. Et ça, c'est la nécessité que l'homme éprouve à l'intérieur de lui-même. Je pense que la machine n'a pas ça. Mais c'est peut-être ça qui fait la nature humaine profondément, au-delà de l'intelligence artificielle ou de tout ce qu'on voudra. La nécessité, le besoin profond de s'insérer dans quelque chose de plus grand que soi-même.
Et c'est probablement ce qui vous fait, même si on parle de mort, ce qui vous fait vivre cette conception de ce que nous sommes, ce verre d'eau qui retourne dans un grand... ensemble, oui. Qui s'appelle l'océan.
C'est ça.
L'océan de l'esprit, l'océan de tout ce qu'on peut imaginer. Oui. À chacun d'imaginer ce qu'il est.
Son océan.
Son océan.
Mais quelque chose de plus grand que soi.
Plus grand
et je
que
pense
soi.
Que ça, c'est un besoin. Ça, c'est peut-être le besoin. On se demande toujours qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Qu'est-ce qui fait l'unicité de l'être humain. C'est peut-être ça pour moi.
Ben, François... Le temps nous glisse aussi entre les mains, comme un verre d'eau qui nous glisse entre les mains.
On va retourner à l'océan.
Mais on va peut-être s'abreuver de vos paroles. Dites-moi en terminant, vous continuez d'exercer la médecine, vous continuez aussi de vous intéresser à la musique. S'il y avait un grand projet, la vie n'est pas terminée, la vie est encore devant nous, le verre d'eau est encore bien constitué, quel serait-il?
Un grand projet?
Oui, un grand rêve.
Oh, un grand rêve. Qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien.
Bien, à tout le moins, je suis certain que ceux qui nous ont entendus depuis 2 semaines auront été impressionnés par vos réflexions, qui sont des réflexions inspirantes pour poursuivre sur le chemin de la vie.
Je préférerais qu'ils soient touchés plutôt qu'inspirés.
Merci, François.
Plutôt qu'impressionné, excusez-moi.
Mais nous sommes touchés. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision de Vital Côté, Armand Dubois, la réalisation et l'animation. François Millette était avec nous. On va se quitter, François, avec une autre découverte probablement pour vous. C'est le prélude numéro 19, un extrait en mi bémol majeur de Karakariev. Juste un petit mot sur ce compositeur qui est né en 1918, donc au début du 20e siècle, un an après la Révolution. Du temps de l'URSS, on le considérait comme un artiste du peuple. Il fut d'ailleurs même député du Soviet suprême, académicien de l'Académie nationale des sciences et l'une des grandes figures de la culture soviétique. Son héritage musical se distingue par la création de 110 pièces, dont des ballets, des opéras, des symphonies. Alors, on va entendre un véritable peut-être, peut-on dire, compositeur du régime soviétique. Et c'est le pianiste russe Vladimir Yurikin Klevke qui interprète ici ce prélude. Ce pianiste, d'ailleurs, en passant, remporta en 1969, alors qu'il était âgé de 20 ans, le premier prix au concours national de piano de musique contemporaine soviétique. On se laisse là-dessus parce que c'est une musique qui vous permettra peut-être de revoir tout ce dont vous nous avez parlé au cours des deux dernières semaines.
J'ai acheté la partition, j'essaierai de l'apprendre si c'est faisable. Merci beaucoup, mon cher ami.
Bien, l'amitié, c'est quelque chose de précieux et j'espère que cette conversation aura permis à ceux qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, d'avoir peut-être une vision plus riche de ce qu'est l'existence.